Voilà. Bonjour, nous allons continuer notre enquête à travers le livre des Nombres. Et la semaine dernière, nous avons commencé à nous interroger sur ce texte curieux qui est un récit de double contestation, où il y a à la fois un désir du peuple pour avoir de la viande, et en même temps la complainte de Moïse qui trouve qu'il est trop chargé par rapport à ce peuple. Donc on a fait la traduction, je ne vais pas vous la rappeler, simplement vous rappeler que le texte actuel combine en effet ces deux thèmes. Donc le peuple est mécontent par rapport à la manne, et Moïse en quelque sorte est mécontent par rapport à cette charge que Yahvé lui confie par rapport au peuple, avec une double issue. Il y aura l'esprit de Moïse qui sera reparti sur les 70 anciens qui commencent à prophétiser. Et Yahvé écoute aussi la demande de viande, mais cette demande-là aura une issue moins bien, parce que avant même que le peuple puisse profiter de cette viande, on nous dit qu'il y a un grand coup qui va les frapper. Donc il y a là un issue négatif. Donc le récit, en fait, combine ces deux thèmes. Et par cette combinaison, en fait, on va avoir une sorte de complexification d'un schéma traditionnel qu'on connaît dans beaucoup de récits, qu'on appelle souvent deutéronomiste, parce qu'inspiré par la théologie du Deutéronome, à savoir le peuple désobéit, la colère divine se manifeste, un prophète, Moïse, ou un autre prophète intercède, et puis cette intercession réussit à détourner Yahvé de sa colère. Ça, c'est le schéma traditionnel. Par contre, si vous regardez ce qui se passe ici, c'est un peu plus compliqué, c'est pas si simple, parce que l'intervention de Yahvé ici est le double, comme je vous ai dit, elle est positive par rapport à Moïse, mais négative par rapport au peuple. Et aussi, il y a une ambiguïté par rapport à l'intercession de Moïse, parce que Moïse, en fait, intercède pas vraiment pour le peuple, il se plaint plutôt auprès de Yahvé, et il doute même de la puissance de Yahvé. Donc, c'est quelque chose de différent. Et les accusations que Moïse va formuler à l'égard de Yahvé, si vous connaissez bien votre Bible, ça vous rappelle en fait les complaintes de Job, hein, et aussi ce qu'on appelle parfois les lamentations de Jérémie. Donc, c'est en fait des textes assez durs qui accusent Yahvé d'être un peu un sadique, voire un méchant. Vous allez voir ça un peu plus en détail dans un moment. Donc c'est un texte récent qui présuppose, évidemment, nous allons le voir aussi, le texte d'Exode 16, le récit de la manne, du don de la manne. Pour ceux qui ont suivi il y a quelques ans le cours sur l'Exode, vous vous souvenez peut-être, sur l'origine du don de la manne et des cailles, qui est un texte donc sacerdotal. Donc ça veut dire, si Nombre 11 présuppose ce texte, ça doit nécessairement un texte plus récent, un texte post-sacerdotal, et aussi un texte post-deutéronomiste, puisqu'il en fait transforme la théorie de l'intercession deutéronomiste. On peut montrer cette idée qu'il s'agit d'un texte récent aussi encore par une autre comparaison. De nouveau, si vous êtes lecteur assidu de la Bible, vous savez que en fait il y a trois récits dans la Torah qui parlent de la décharge de Moïse. Il y a Exode 18, où Moïse, en fait, est débordé par ses activités juridiques, et c'est Jéthro, son beau-père, qui lui conseille, en fait, d'établir un certain nombre de juges par groupe du peuple. Ensuite, en Deutéronome 1, C'est Moïse lui-même qui prend l'initiative sans qu'on parle de son beau-père Jéthro. Et finalement, ici, au nombre 11, c'est Yahvé lui-même qui intervient. Si vous regardez ensuite les situations, vous vous rendez compte aussi que là, il y a des changements. En Exode 18, la situation est tout à fait concrète. Moïse ne se plaint pas du tout, mais il est là du matin jusqu'au soir en train de juger le peuple, et son beau-père lui dit « mais ça ne va pas du tout, tu vas te tuer à la tâche, donc il faut te faire remplacer par des juges ». En Deutéronome 1, la situation est déjà un peu plus générale parce que Moïse rappelle d'abord que le peuple est devenu très grand et comment alors pourrait-il porter tout seul le peuple. Finalement, on va quand même aussi parler de l'installation des juges. Par contre, ici, au nombre 11, est-ce qu'on parle encore du juge ? Plus du tout. Donc ce thème précis a disparu. Là, il s'agit plutôt, de manière générale, qui seront, d'une certaine manière, les successeurs de Moïse. Donc le sujet est différent, donc, ce qui montre là aussi que nous sommes de nouveau dans un texte qui présuppose les textes antérieurs. Nous sommes déjà dans un esprit un peu midrashique. Je vous ai dit que le livre des Nombres, c'est aussi un peu le début même du réflexe midrashique, à savoir de prendre des traditions plus anciennes, de les réécrire, de les adapter à une nouvelle situation. Dans la version finale de ce texte, c'est en effet un texte qui exprime des oppositions, oppositions entre deux dons de l'esprit à l'ensemble du peuple, représenté par les 70 anciens, et le jugement divin qui s'abat sur le peuple à la fin à cause de ses désirs de viande. Donc il y a là une opposition entre une idée idéale et la dure réalité. Dans le Nouveau Testament, c'est un peu cette opposition entre la chair et l'esprit chez Paul et d'autres. Et c'est une opposition qu'on trouve aussi dans d'autres textes de l'époque perse. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, vous avez ce qu'on appelle le deuxième Ésaïe, les chapitres 40 à 55 de ce livre, rédigé après l'arrivée des rois perses, qui en fait pensent que, en effet, l'ère du salut est arrivée. Cyrus est célébré comme le Messie de Yahvé, donc tout va être bien, nouvelle création, tout le monde va revenir. Et donc cet espoir magnifique est ensuite un peu, modifié, une sorte de douche froide ensuite, si vous prenez les chapitres 56 à 66, où tout d'un coup on se rend compte que ce n'est pas si idéal, ce qu'on appelle le troisième Ésaïe, parfois, qui se termine en effet à la fin par une annonce de jugement en Ésaïe 66, donc avec des cadavres, des hommes qui voilà, vont jonger les rues, un peu comme en Nombre 11. Donc un peu le même esprit entre une situation idéale et une situation donc, de jugement divin. Donc c'est clair que nous avons là un texte composite qui, dans sa forme déjà la plus ancienne, présuppose les textes sacerdotaux de l'Exode. Voilà. Alors maintenant, on va regarder un peu plus en détail ce texte qui commence avec les pleurs du peuple. Les pleurs du peuple, mais le peuple est précédé par la présence d'un groupe qu'on ne sait pas très bien traduire. Ce groupe, c'est Asafsouf. Asafsouf. On traduit souvent par un ramassis. C'est en effet construire sur la racine Asav, qui joue un rôle important dans ce texte. Asafsouf, ramassis, pourquoi est-ce qu'on parle un ramassis de gens ? C'est curieux, hein ? Peut-être c'est lié à un autre texte qui a également une expression bizarre, en Exode 12, 38, où on nous dit que lors de l'Exode, il y a une population mêlée, mélangée, Erev Rav, qui montait avec les Hébreux au moment de l'Exode. Donc ça veut dire qu'il y a des gens d'autres ethnies apparemment qui montent au moment de l'exode, qui profitent en fait de la situation pour se joindre aux Hébreux. Et pourquoi on dit ici qu'il y a ce ramassis? Parce que dans la suite du texte, est-ce que ça revient? Ce ramassis ne revient plus du tout. Après, il n'est seulement question, en fait, du peuple ou des fils d'Israël. Donc, peut-être, en effet, c'est une retouche. D'ailleurs, au niveau de l'hébreu, on voit très bien que ce n'est pas la narration, c'est plutôt une sorte de remarque. C'est probablement une sorte de retouche pour ne pas accuser l'ensemble du peuple. Parce que le texte originel commencerait peut-être simplement par « les fils d'Israël s'assirent ou recommencèrent, selon la manière dont on veut vocaliser, recommencèrent ou s'assirent pour pleurer ». Et quelqu'un a dit après, ben non, comme tout le monde n'est pas mort, ce n'est pas l'ensemble du peuple, c'est seulement un groupe spécifique, et a ajouté donc la première partie, en s'inspirant en effet de la racine Asav. Si vous vous souvenez ce que nous avons vu la semaine dernière, cette racine Asav joue en effet un rôle très important donc, dans ce récit. Donc du coup, en effet, avec Asav, la question c'est autour de quoi est-ce qu'on va se rassembler? Autour de la... du désir de Bassar, de la viande, autour de l'esprit donné aux 70 anciens. En effet, le texte va construire cette alternative. D'ailleurs, la demande de viande est un peu étonnante, parce que tout le temps, on nous dit que le peuple se promène avec son petit ou gros bétail. Donc, s'ils veulent absolument la viande, rien ne les empêche de sacrifier quelques animaux et de manger la viande. Donc, comme le dit Rashi, c'est probablement l'idée d'une sorte de demande gratuite qui n'a en fait aucune nécessité, aucun fondement. Et d'ailleurs, c'est très intéressant aussi, si vous regardez la suite, lorsque le peuple énumère les nourritures magnifiques de l'Égypte, qu'est-ce qu'il énumère? En fait, des légumes. À part du poisson, le peuple n'énumère en fait que des légumes et des fruits, des pastèques, des concombres, de l'ail et ainsi de suite. Donc on voit, c'est un texte assez ironique. D'ailleurs, c'est plutôt en fait pas tellement une nourriture de festin, c'est plutôt la nourriture des corvéables. Et ensuite aussi l'idée que nous avons mangé pour rien, chinam. Pour rien, ben ça semble aussi oublier un peu le fait qu'en tant que corvéable, les Hébreux n'avaient pas tellement la nourriture pour rien. Donc, je pense en effet, ce texte, dès le début, se moque un peu de cette demande du peuple. Maintenant, dit le peuple, notre vie se dessèche. Notre vie se dessèche. Nefesh, nefesh. Yavesha... donc nafshulu yavesha, donc être sec, ça fait penser à quoi? Ça fait penser en fait à la grande vision des ossements dans le livre d'Ézéchiel, qui est construit aussi autour de cette parole du peuple qui disent nos os sont desséchés. Donc c'est apparemment une sorte de d'adage qui a eu lieu après la destruction de Jérusalem, à l'époque de l'exil ou au début de l'époque perse, où la situation était difficile, et beaucoup de gens se sont certainement dit « voilà, c'est fichu, c'est foutu, notre vie se dessèche ou nos os se dessèchent ». Donc, en Ézéchiel 37, on va utiliser cet adage pour faire cette magnifique vision des ossements qui reprennent chair et vie. Ici, on va plutôt utiliser cette citation pour dénoncer ce qui, selon l'auteur de ce texte, est en effet une revendication qui n'est pas légitime. Après cela, quelqu'un se dit « mais est-ce qu'il ne faut pas que j'explique un peu ce que c'est la manne ?» C'est pour cela que vous avez tout un excursus qui sans doute ne fait pas partie du récit ancien, quelqu'un qui va nous donner, en fait, en s'inspirant en partie d'Exode 16, un petit excursus botanique sur ce que c'est la manne. Alors on apprend que la manne était comme de la semence de coriandre, et les deux textes aussi, que ça, apparemment c'était quelque chose plutôt de sucré, hein, gâteau à l'huile ou alors pâtisserie du miel en Exode 16, et que c'était lié à la rosée, parce que pour les anciens, on imagine que la rosée tombait du ciel durant la nuit, hein, et donc on imaginait que la manne tombait avec la rosée. Alors, qu'est-ce que c'est la manne ? Vous avez déjà mangé la manne ? Ah, on peut, hein, je... Bon, là, d'accord, voilà. Là, vous avez des grains de coriandre, donc... bon. Au XIXe siècle a commencé une sorte d'intérêt un peu, qu'est-ce qu'il faut dire, naturaliste pour ces questions. Et il y a eu deux naturalistes allemands qui se sont en effet qui ont voyagé au Sinaï à la recherche de la manne. Alors ils ont trouvé en fait une sorte d'arbuste, un tamaris, qui donne une sorte de manne parce qu'il est colonisé par une sorte de petit insecte, une cochenille, qui produit une sorte de substance, surproduit une sorte de substance qui après donc se cristallise et devient une sorte de sucre qui tombe et donc qu'on peut ramasser. Et à leur époque, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, je ne me suis pas renseigné, à leur époque, il y avait des Bédouins dans le coin qui vendaient la manne. Donc on pouvait la manger, donc ils rassemblaient ce produit en l'appelant manne essama, donc la manne du ciel, en le vendant donc aux pèlerins qui arrivaient au Sinaï. Donc, c'est possible que les auteurs bibliques se soient inspirés de ces phénomènes naturels en les interprétant comme une intervention divine. Ça, c'est possible. Maintenant, il faut aussi vous dire que dans la Bible, la manne n'est pas très, très souvent mentionnée. Et souvent dans les textes assez tardifs, je vous ai listé là, donc je ne vais pas tous vous les énumérer. Et on a en fait deux tendances. On a deux tendances. On a en fait cette idée un peu dans l'Exode, dans le nombre, on décrit un peu ce que c'est, comme de coriandre, comme des ougotes, comme des gâteaux, etc. Et puis il y a aussi une traduction qui est un peu moins naturaliste, c'est-à-dire que dans le psaume 78, on va dire en fait que la manne tombe directement du ciel et la manne là est appelée le blé des cieux ou le pain des forts. Donc là, ce n'est pas tellement l'idée qu'il faut expliquer ce que c'est une sorte d'ambroisie hébraïque, donc une sorte de nourriture céleste qui est donnée au peuple. Et donc, cette compréhension mythologique, évidemment, vous le trouvez très fréquemment dans la mythologie grecque. Hérodote aussi parle des nourritures célestes chez les Éthiopiens, qui auraient une sorte de table du soleil où ils peuvent manger constamment. Et aussi les Hyperboréens qui, en fait, ont chez eux des nourritures magnifiques, un climat magnifique, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus se focaliser sur la seule lecture naturaliste de la manne. Donc, je pense que c'est aussi, évidemment, une idée mythologique. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut faire attention de lire les récits de miracles bibliques souvent. On le fait, mais je trouve que c'est parfois un peu malheureux, comme simplement une sorte de réinterprétation mythologique des faits naturels. C'est très à la mode, si vous prenez des revues comme Science et Vie, etc., on va vous expliquer que le plaie d'Égypte, en fait, c'est l'explosion du Santorin et que, en fait, tout s'explique par la science. Non, ça ne s'explique pas par la science, c'est simplement parce que ces textes utilisent des idées mythologiques. Donc, comme on avait voulu dire aussi, 19e siècle, par exemple, pour les récits de multiplication de pain dans les évangiles, on avait dit en fait qu'il y avait des boulangeries souterraines qui fournissaient fur et à mesure les disciples pour qu'ils puissent en effet distribuer les paniers. Alors aujourd'hui, ça nous fait rire, mais c'était toute une tendance en fait de démythologiser, ça c'était d'ailleurs un grand programme aussi pour le Nouveau Testament de Bultmann, de démythologiser les textes bibliques. Mais les textes bibliques sont des textes mythologiques. Donc, ça ne veut pas dire qu'on peut reprendre de temps à autre, évidemment, des phénomènes naturels. Par exemple, si vous prenez le récit des plaies, qui a des invasions des criquets, ça, c'est tout à fait normal jusqu'à aujourd'hui. Mais de vouloir, en fait, réduire l'ensemble de ces récits de miracles à des faits scientifiques que les auteurs un peu médiocre aurait ensuite interprété comme des interventions divines, ça je crois que c'est une mauvaise lecture. Une mauvaise lecture qui ne rend pas compte en fait aux idées des récits bibliques pour qui évidemment l'intervention divine est importante. Et donc du coup cette dimension mythologique pour la manne, vous allez le retrouver dans les textes du Nouveau Testament, lorsque Jésus lui-même dans l'évangile de Jean est présenté comme étant le vrai pain du ciel, donc à l'opposé de la manne qu'ont mangé les Israélites. L'Apocalypse va parler aussi de la manne cachée, reprenant le thème de la nourriture céleste. Et on trouve aussi chez Philon ce lien avec la mythologie grecque, puisqu'il interprète la manne reçue par le peuple comme étant le symbole de l'enseignement philosophique. Contrairement à l'éducation encyclopédique. L'idée, c'est quoi ? Que n'importe qui peut apprendre par cœur des faits, mais pour être un bon philosophe, il faut avoir un don qu'on a reçu. Et ça, ça ne s'apprend pas. Je ne sais pas si tous les philosophes seront d'accord avec ça, mais c'était Philon. Et au Moyen-Âge, ça c'est intéressant aussi, vous avez un débat entre deux rabbins, en fait, pour savoir est-ce que... Et là, vous avez... Déjà, cette opposition un peu entre lecture naturaliste et lecture mythologique, est-ce que la manne est un miracle ou est-ce que ce n'est pas un miracle ? Donc, Ibn Ezra dit, en effet, c'est clairement un miracle, alors que Ben Meir va dire, non, ce n'est pas un miracle, c'est là. Ce qui est miraculeux, c'est l'abondance et la constance de la manne. Donc, je pense, on a en effet les deux concepts. On a peut-être un peu trop négliger la perspective mythologique qu'il faut, je pense, de nouveau souligner. On ne fait pas tort aux textes bibliques quand on dit qu'il s'agit des textes mythologiques. C'est vrai que souvent le terme de mythe a une connotation péjorative, mais je pense que c'est totalement inadéquat parce que le mythe, c'est un récit. Un récit qui est un récit souvent identitaire, qui explique des fondations. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'appeler les textes bibliques des mythes. Alors, dernier détail par rapport à la manne, le fait qu'on décrit en détail les différentes manières qu'on peut utiliser, on peut le broyer, on peut le cuire, on peut faire des gâteaux, on peut faire plein de choses, c'est évidemment aussi une manière de dire que la complainte du peuple est totalement illégitime parce que, loin d'être monotone, pouvait faire plein de choses avec de la manne. Voilà, c'était l'idée de cet excursus que quelqu'un nous a ajouté à ce texte. Maintenant, Moïse écoute les plaintes du peuple et c'est Yahvé qui s'enflamme de colère. Donc Moïse ne réagit pas, on dit simplement il écoute, et c'est Yahvé qui se met en colère. Donc on aura presque pu avoir Yahvé écouta les plaintes et se met en colère. Est-ce qu'il y a là un petit trafic autour du texte ? C'est difficile de savoir, mais on a l'impression, si on lit le texte tel qu'il est, que Moïse prend plutôt la partie du peuple. Hein ? Parce que on dit « cela fut mauvais aux yeux de Moïse ». Alors, si on lit le texte tel que nous l'avons, c'est la colère de Yahvé qui est mauvais aux yeux de Moïse. D'ailleurs, aussi, Moïse n'exhorte pas du tout le peuple, il dit non, non, vous inquiétez pas, comme il le fait dans d'autres endroits. Hein, il est simplement dit que Moïse trouve que tout ça, c'est ras, mauvais. Et cela permet évidemment d'introduire la deuxième, disons, le deuxième grand thème de ce texte, à savoir la complainte de Moïse. Complainte de Moïse qui est construite en fait assez clairement, comme l'ont remarqué beaucoup de commentateurs, comme un chiasme. Donc Moïse maintenant qui s'adresse à Yahvé, pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur ? À ce qui correspond à la fin, pour que je ne vois pas, et là je vais revenir là-dessus parce que ça c'est assez dur, pour que je ne vois pas ta méchanceté. Deux fois on a le thème « trouver grâce aux yeux de Yahvé », mais là presque un peu de manière cynique. Si je trouve grâce à tes yeux, à la fin, fais-moi plutôt mourir. Hein ? Donc, ce qui est quand même aussi assez... Puis après, on a le thème de portée ou la charge, et au milieu, donc, au milieu, on trouve en effet la question qui est le vrai responsable du peuple. Si vous observez bien, est-ce que vous constatez quelque chose ? C'est un verset qui manque dans ce schéma. C'est le verset 13 hein, qui, en effet, sort du schéma et qui pose la question d'où est-ce que j'aurai de la viande ? Ce qui, évidemment, montre que ce verset-là ne fait pas partie de ce thème de la complainte de Moïse, mais plutôt du récit des cailles. Les accusations de Moïse, on l'a déjà vu, c'est vraiment un peu les accusations de Jérémie et de Job. Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur ? Le seul parallèle possible, c'est au début de l'Exode, mais là, c'est plutôt par rapport au peuple. Pourquoi m'as-tu envoyé ? Pourquoi fais-tu du mal à ton peuple au moment où les négociations n'aboutissent pas ? Et ensuite, on va passer à une image très intéressante où, en effet, si vous prenez le verset 12, est-ce que moi qui a conçu ce peuple ou est-ce que c'est moi qui l'a enfanté ? Donc, qu'est-ce qu'il sous-entend Moïse ? Évidemment, ce n'est pas lui. Mais si ce n'est pas lui, c'est qui ? Ben, c'est Yahvé. Et donc là, en effet, Yahvé est présenté comme une mère qui a conçu et enfanté Israël. Donc là, Yahvé, ce n'est pas le dieu barbu tel qu'on le trouve dans plein de représentations à la chapelle Sixtine et ailleurs. Là, Yahvé est une mère qui a conçu et enfanté son peuple. Et Moïse, en fait, est la nourrice. Moïse est la nourrice, bien que le terme est mis ici au masculin, hein, mais c'est quand même un terme technique utilisé pour la femme qui nourrit. Et Israël est en effet appelé ici Yonek, c'est lui qui suce, donc un bébé qui a besoin d'être allaité. C'est très intéressant. Des images féminines qui sont utilisées à la fois pour Yahvé et pour Moïse. Où est-ce qu'on trouve encore des images féminines pour Yahvé dans la Bible ? Ben vous le trouvez surtout dans le deuxième Ésaïe. Dans le deuxième Ésaïe, où, par exemple, je vous ai mis juste deux exemples, une femme oublie-t-elle son nourrisson, même si, ce qui n'arrive pas normalement, même si elle oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Donc Yahvé se compare en effet à une femme qui prend soin de son nouveau-né. Ou alors encore, comme un homme que sa mère reconforte, c'est moi qui vous reconforte. Il y a encore un autre texte qui me vient à l'esprit maintenant, j'aurais pu vous le mettre aussi, c'est encore plus loin, c'est que Yahvé en effet se compare à une femme qui enfante, qui est dans les douleurs. Comme une femme en douleur, je vais vous donner une nouvelle naissance, donc pour symboliser la recréation d'Israël. Un texte aussi du Deutéronome, on peut encore le mentionner, où c'est Yahvé de nouveau qui est comparé à un rocher qui t'a engendré, donc Israël, tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. Donc vous avez un certain nombre de textes où Yahvé est présenté non pas comme un dieu mâle, mais comme une déesse. Et ça vient d'où ? Ben, ça vient des textes qui, en effet, sont des textes les plus monothéistes de la Bible. Donc, dans le deuxième Ésaïe, on va en effet expliquer qu'il n'y a que Yahvé qui est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Et donc, du coup, ben, au moment où on a mis de côté les déesses, ben, on est un peu obligé de se poser la question de la gestion du féminin, parce que normalement, dans un système polythéiste, bah, pour des questions de fertilité, etc., bah, vous avez en effet toutes sortes de déesses auxquelles on peut donc s'adresser. Au moment où vous avez un seul dieu, qui est le dieu unique, bah, il ne faut pas seulement avoir des images masculines, bien que celles-ci l'ont emporté finalement, bah, il faut aussi avoir des images féminines. Et c'est probablement dans ce contexte-là qu'il faut aussi situer nombre 11. Donc, ces images sont minoritaires dans les textes bibliques, donc finalement, c'est quand même l'image avec laquelle tout le monde a fait son éducation religieuse, donc l'image d'un dieu barbu, mâle, etc., qu'il a emporté, mais vous voyez qu'à l'intérieur des textes bibliques, il y avait d'autres approches qui, peut-être, ne se sont pas imposées à cause du fait que bah, les auteurs bibliques, bah, c'est tous des hommes. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de femmes qui ont écrit des textes bibliques. C'est comme ça. Voilà. Alors, donc, ces images féminines sont donc liées à cette idée que Moïse dit à Yahvé, « Tu m'as dit, porte-le dans ton sein, comme la nourrice porte le nourrisson. » Donc là, il y a une sorte de citation. « Tu m'as dit que... » Mais si vous cherchez dans les textes bibliques l'endroit où Yahvé aurait dit ça à Moïse, vous ne le trouvez pas. Hein ? Alors soit c'est une sorte de réinterprétation de Moïse ici, ou ça fait allusion à d'autres textes, parce qu'il y a deux textes où Moïse intercède pour le peuple, et où en fait le thème c'est toujours un peu pareil, où il insiste sur le fait que le peuple, ce n'est pas son peuple à lui. Chaque fois, Yahvé dit, mais ton peuple a fait ceci et cela. Et Moïse dit, attention, ce n'est pas mon peuple, c'est le tien. Donc, sorte de match, chacun se renvoie un peu la balle, Exode 32 et 33. Et puis, c'est probablement inspiré par ces textes-là. D'ailleurs, il y a un certain nombre de liens entre Exode 33 et Nombre 11, c'est probablement Exode 33 qui est un peu le modèle pour Nombre 11, parce que là aussi on trouve la tente de la rencontre, on va en parler, l'expression aux yeux de, trouver grâce aux yeux de, à l'intérieur, Bekeref, etc. Donc c'est possible que Nombre 11 s'inspire donc de ce texte. La fin de cette citation est d'ailleurs un petit problème grammatical, parce que Moïse dit « Tu m'as dit que... » Donc il cite Yahvé qui parle à la première personne et qui dit « Tu m'as dit, citation de Yahvé, « Porte-le dans ton sein, comme la nourrice porte le nourrisson, vers le pays que tu as promis par serment à ses pères. » Donc si c'est Yahvé qui parle, ça devient un peu curieux. Parce que dans ce cas-là, il aurait dû dire que j'ai promis. Donc probablement... il faut le comprendre comme un commentaire dans la bouche de Moïse, peut-être aussi comme un ajout, ce qui est tout à fait possible, qui voulait en effet souligner le but de toute cette entreprise, à savoir l'entrée dans le pays juré, donc promis par serment au Père. Cette expression, le pays, donc Eretz ou Adama, Asher, Adonai, Nishpa, Labotechem, Labotehem, etc. Ça, c'est une expression très fréquente dans le livre du Deutéronome. Dans le livre du Deutéronome, je connais tous ces textes par cœur parce que c'est là-dessus que je fais ma thèse de doctorat il y a très longtemps. Donc, faut cela, je peux tous vous les citer, mais je ne vais pas le faire parce que je ne pense pas que ça va vous passionner, mais c'est vraiment un refrain que vous avez dans le livre du Deutéronome Et donc, du coup, peut-être c'est aussi inséré ici pour préparer la suite des nombres, à savoir le livre du Deutéronome. La fin de ce grand discours de Moïse, « Si tu agis ainsi avec moi, tue-moi, fais-moi mourir, si je trouve grâce à tes yeux, pour que je ne voie pas ta méchanceté. » Ça, ça ne se trouve pas comme ça dans le texte massorétique. Dans le texte massorétique se trouve « pour que je ne voie pas mon malheur ». Ce qui est... Voilà, donc vous avez l'air de dire oui. C'est clairement une correction. Le texte massorétique est clairement une correction. Et c'est probablement un de ces cas qu'on appelle les tikkuné soferim, correction de scribe. Alors, selon la tradition, en fait, évidemment, les massorètes qui ont vocalisé le texte hébreu n'ont jamais altéré le texte hébreu, même si ça les embêtait. Alors, ils ont fait ils ont fait la différence entre le ketiv et le keré, ce qui est écrit, ce qu'il faut prononcer, tout en laissant le texte consonantique. Mais la tradition dit qu'il y a 18 cas dans le Tanakh, dans la Bible, où il y avait des versets tellement gênants qu'ils ont manipulé, changé, altéré le texte consonantique qu'ils avaient trouvé. Malheureusement, on n'a pas de liste de ce 18. On sait qu'il y avait 18, disons, on sait, la tradition nous dit qu'il y avait 18, hein, et beaucoup de commentateurs, déjà rabbiniques, disent, en effet, là, c'en est un. Et je pense, là, ils ont raison, parce qu'on comprend très bien pourquoi on a changé pour que je ne vois pas ta méchanceté en pour que je ne vois pas mon malheur. Donc ça, je pense, on peut assez facilement comprendre. D'autres cas où c'est très clair, c'est par exemple dans le livre de Job. Lorsque la femme dit maintenant « maudit Dieu et meurt », en fait, dans les textes, c'est comme ça traduit dans toutes les traductions, hein, mais dans le texte hébreu, c'est « béni Dieu et meurt ». Parce qu'on ne pouvait pas écrire dans un texte hébreu « maudire », même si c'est la femme de Job, on ne peut pas dire qu'il faut maudire Dieu. Donc, du coup, là, c'est probablement aussi un de ces cas de ces fameux tikkuné soferim. Donc, je pense en effet que là, dans le texte originel, c'était ça que Moïse, en fait, souhaite mourir, ce qu'on trouve aussi, par exemple, pour Élie, Élie qui est fatigué et qui veut mourir, n'est-ce pas, mais qui n'accuse pas Dieu directement de méchanceté. Donc là, maintenant, donc, on a, après, des images qui évoquent la vie, la mère, la naissance, la nourrice, maintenant, des images donc, de mort. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il n'y a pas de réaction de la part de Yahvé. Yahvé ne se met pas en colère contre cette demande de Moïse. Au contraire, il réagit, mais en annonçant en fait le don de l'Esprit. Il dit qu'il faut rassembler 70 anciens. 70, bah, c'est la totalité. Par exemple, à Ougarit, et Asherah, ils ont 70 fils. Et on trouve donc l'idée que le 70 anciens, qu'on a par ailleurs aussi, c'est d'une certaine manière les représentants de l'ensemble du peuple. C'est peut-être précédé par d'autres institutions. En 2 Rois 10, on parle de 70 fils du roi. Mais est-ce que c'est des fils biologiques? Alors c'est un roi très actif, mais tout est possible. Mais c'est peut-être un titre aussi, hein, un titre pour des gens qui sont très proches du roi. Hein. On a ça aussi dans une inscription du 8e siècle de Sincerli. On parle de 70 frères de la maison royale. Donc c'est plutôt là une sorte de titre pour une certaine position. En Ézéchiel, on parle encore une fois de 70 anciens, en les accusant en fait de vénérer toutes sortes d'images d'autres divinités. Donc apparemment, il y avait quand même l'idée, à partir de l'époque perse, que le peuple pourrait être représenté par 70 anciens, ce qui après va aboutir dans l'idée du Sanhédrin, hein, du Sanhédrin qui, en fait, rassemble 70 plus le chef, souvent, hein, et qui est mentionné, en fait, directement pour la première fois chez Flavius Joseph. Donc peut-être ces textes des 70 anciens ont même inspiré, d'une certaine manière, l'institution du Sanhédrin. Les textes qui sont le plus proche par rapport à ce qui va se passer au nombre 11, c'est le texte d'Exode 24. Exode 24, c'est aussi un texte tout à fait intéressant où on va, en effet, Moïse, Aaron et ses fils et 70 anciens qui montent et qui voient le Dieu d'Israël. Quand même assez incroyable. Ils voient le Dieu d'Israël. Et on va dire, voilà. Et on dit, contre ces privilégiés, Atsilim, donc Dieu ne va pas, en fait, va pas les sanctionner parce qu'ils ont vu Dieu. Donc ils sont des privilégiés, des Atsilim. Et ce qui est intéressant, c'est cette racine qui n'est pas très fréquente, la racine Atsal, vous l'avez également au nombre 11, parce que là, il est dit, il prélèvera. Donc, Atsalim, c'est ceux qui sont en fait les privilégiés, qui sont prélevés du reste du peuple. Et ici, on va avoir la même racine. Yahvé va, Atsal va prélever en fait de l'esprit de Moïse pour le donner à ses 70 anciens. Donc, ce n'est pas l'esprit de Yahvé, c'est l'esprit de Moïse qui est donné aux 70 anciens. Et ça, vous l'avez, par exemple, avec la succession de Élie-Élisée. Donc l'idée que Yahvé a mis l'esprit, ça, encore brièvement, que Yahvé a mis l'esprit sur Moïse, vous le trouvez dans ce texte un peu compliqué de Ésaïe 63. Donc Yahvé met son esprit en Moïse comme il a mis son souffle dans le premier être humain. Donc c'est une sorte de démocratisation, d'une certaine manière, des compétences de Moïse, ou une succession, hein, aussi une succession, parce que les 70 anciens sont des successeurs. Alors, tout cela se passe la tente de la rencontre. Et la tente de la rencontre, en fait, il y a deux conceptions. Dans les textes sacerdotales, la tente de la rencontre, Ohel Moed, se trouve à l'intérieur de l'enceinte du sanctuaire, hein, alors que dans les textes non paix, c'est à l'extérieur du camp. Hein, et c'est l'idée que nous avons ici. Donc, en fait, c'est, un lieu où il n'y a pas de clergé pour ces textes-là. C'est un lieu laïque, d'une certaine manière. Il n'y a pas de lévite, il n'y a pas de prêtre qui s'occupe de la tente de la rencontre. Au nombre 11, c'est le lieu où les 70 anciens vont recevoir le don de l'esprit de Moïse. Et donc, du coup, on peut se poser la question telle qu'elle s'est la posée John Van Seters, grand exégète, un des exégètes plus importants du siècle dernier, qui a émis l'hypothèse que l'attente de la rencontre dans les textes non-paix, post-paix, hein, reflète peut-être l'origine du culte synagogal à l'époque perse. Hein. C'est un peu au niveau architectural, c'est très difficile de dire quelles sont les premières synagogues, parce que ce n'est pas des bâtiments sacrés. Hein. Donc les premières synagogues qu'on peut identifier, c'est le IIe siècle avant l'ère chrétienne. Hein. Mais ça a probablement commencé avant. Hein. Ça a probablement commencé avant. Et Van Seters pense que les textes qui parlent d'une tente de la rencontre qui est séparée justement du sanctuaire, hein, qui est laissée aux prêtres, que en fait cette vis-à-vis que vous avez dans les textes tardifs entre le Mishkan, hein, le sanctuaire portable, qui représente du coup le temple de Jérusalem, et le Ohel Moed, ce serait justement une manière de inscrire dans les textes cette dichotomie entre le temple avec le culte sacrificiel et le culte synagogal. Donc, ça, c'est tout à fait la réalité du judaïsme naissant à partir de l'époque perse. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait plausible. Donc, je pense que c'est une bonne théorie de va derrière ces Ohel Moed, une sorte de proto-synagogue. Et Moïse, en fait, en quelque sorte, là, le premier chef de la synagogue. Les anciens, les anciens, c'est probablement ceux qui se sont ici donné une sorte de légitimation comme étant les successeurs de Moïse. Peut-être ceux qui, après, vont siéger dans le Sanhédrin, qui ici se légitiment par donc l'idée d'être les successeurs de Moïse. Alors, ensuite vient donc la réponse de Yahvé. Alors là, j'ai perdu des choses. J'ai perdu des choses dans mon PowerPoint. Ah, c'est ennuyeux. Parce qu'il y a des choses que je voulais vous montrer encore et je ne sais plus. Ils sont partis. Bon, ce n'est pas bien grave. Je vais vous, le résumer. Après, vous avez en fait dans cette histoire de, du don de l'esprit, vous avez donc les anciens dont on va dire qu'ils prophétisaient, ils se mirent à prophétiser et ils n'arrêtèrent pas. Hein, ou ils ne continuèrent pas. Donc là, vous avez aussi deux, en fait, vous avez deux versions différentes. Et probablement là aussi, on peut se dire que dans la version originelle, vous avez en effet l'idée que les 70 anciens sont en effet maintenant établis comme étant les dignes successeurs de Moïse. Et à la suite de cela, on aurait donc voulu insister quand même sur le fait que Moïse, c'est quand même quelqu'un qu'on ne peut pas remplacer aussi facilement. Donc, du coup, on avait l'idée, en fait, qu'il s'agit là plutôt d'un événement qui n'a pas duré. Donc là, probablement aussi, de nouveau, une sorte de correction. Et après interviennent ces deux personnages, Eldad et Medad. Vous vous souvenez, on dit, en fait, Eldad et Medad étaient dans le camp, ils n'étaient pas sortis, et l'esprit tomba quand même sur eux. Et ils se mirent à prophétiser dans le camp. Et Josué, dont on va nous dire Josué qu'il est le serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, va-t-on dire, expression aussi assez singulière que nous avons ici pour Josué. Donc de Josué, on va dire qu'il vient voir Moïse et il dit à Moïse, arrête-les. Et Moïse va dire, mais pourquoi es-tu jaloux pour moi? Si tout le peuple était un peuple de prophètes sur lequel Yahvé mettrait son esprit. Et là, évidemment, ça fait penser à des textes comme dans le livre de Joël. Dans le livre de Joël, le chapitre 3, on va dire, à la fin des temps, Yahvé va donner son esprit sur tout le peuple et vos jeunes gens, vos anciens, tout le monde va prophétiser. Donc l'idée qu'à la fin du temps, il n'y a plus besoin de prophètes, il n'y a plus besoin d'intermédiaires, tout le peuple de Yahvé sera un peuple de prophètes. Et Moïse, dans cet épisode-là de Eldad et Medad, va en effet se faire le porte-parole de cette idée d'une démocratisation de la prophétie. Eldad et Medad, c'est pas très bien ce que veut signifier ces noms. C'est la racine qui est la même que pour David, bien aimé. Eldad, c'est peut-être El, le dieu El aime, ou aimé de Dieu, Medad, même racine. Donc c'est sans doute une sorte de code pour un groupe charismatique de prophètes qui revendiquent, et puis on le voit dans plusieurs textes, que ça crée parfois des problèmes, donc qui revendiquent en fait cet libre accès à l'esprit. Alors qu'après, dans le judaïsme, on va avoir une idée très très différente. Dans le judaïsme, après, on va avoir l'idée que la vraie prophétie, ou le vrai prophète, c'est qui ? C'est un prophète mort, c'est-à-dire un prophète dont on a les rouleaux, avec l'idée qu'à l'époque perse, la prophétie s'arrête. Ça, c'est quelque chose que vous allez trouver dans le Talmud après. Et là, vous avez plutôt une revendication quand même d'un groupe prophétique qui, en effet, dit non, la prophétie, elle continue. Et Moïse est récupéré d'une certaine manière pour faire l'apologie de ce type, en fait, de prophétie. Donc, une sorte de petite niche qu'on a trouvée ici pour l'idée d'une continuation de la prophétie via ces deux figures de Eldad et Medad. Eldad et Medad, qui d'ailleurs ont eu une petite histoire à la réception, parce que dans un livre chrétien du IIe siècle, qu'on appelle le Pasteur de Hermas, on trouve l'idée qu'il y avait un livre qui aurait contenu les prophéties de Eldad et de Medad. On n'a pas trouvé ce livre. Mais il y a aussi une tradition rabbinique qui dit dans ce livre d'Eldad et Medad, il y avait des annonces sur la venue du Messie précédée de la venue de Gog et Magog. Donc évidemment, on s'est inspiré de d'autres textes bibliques pour donner un peu du lien, disons, du contenu à tout cela. Et donc, cette histoire montre en effet comment, à l'intérieur du Livre des Nombres, ce petit groupe de prophéties charismatiques qui a revendiqué une sorte de continuation de la prophétie a quand même trouvé un petit lieu pour faire entendre aussi leur revendication. Donc, à la suite de cet épisode donc, qui légitime cette prophétie, on revient maintenant à la question de la viande, avec donc maintenant l'idée que le peuple doit se sanctifier. Ça, c'est normal pour se préparer à la rencontre avec le divin. Et si vous prenez les versets 18 à 20, ben, vous voyez que là aussi quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, parce que d'emblée, en fait, l'annonce de la viande est présentée comme une punition divine. Ce qui ne va pas très bien après avec les questions de Moïse, qui demande « mais où est-ce que je vais prendre la viande ?» etc. Donc, c'est assez clair que cette annonce du jugement vient trop tôt, car au verset 21, Moïse va justement se poser toutes sortes de questions qui ne font plus de sens après le verset 19 et 20, donc qui, en effet, sont sans doute un ajout qui introduit en fait ce thème qui est celui de la nostalgie de l'Égypte. Le thème de la nostalgie d'Égypte est un thème qui parcourt. Alors, n'ayez pas peur, donc c'est juste un schéma pour vous montrer ce thème qui commence en Exode 14 et qui va jusqu'à Nombre 21, donc jusqu'au dernier récit de rébellion dans le livre des Nombres. Et ce qui se passe chaque fois, le peuple pose la question « Pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte ?» On accuse Yahvé ou Moïse de vouloir laisser mourir le peuple en Égypte. Et donc, du coup, ça fait tout un lien entre le début de la sortie d'Égypte, à savoir la traversée de la mer en Exode 14, jusqu'au dernier récit de révolte en Nombre 21. Le texte le plus proche, en fait, c'est celui de Exode 17. Pourquoi donc nous as-tu fait monter d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux? Alors, qu'est-ce qui se trouve là derrière ce thème, en fait, de la sortie qui est mise en question, la sortie d'Égypte? Probablement, au niveau historique, ça reflète le refus d'une partie des exilés qui ne voulaient pas rentrer dans le pays à l'époque perse. Parce qu'en effet, plusieurs textes bibliques, je vous en ai mis là quelques-uns, montrent en fait que malgré la possibilité qu'avaient les gens installés à Babylone, en Égypte ou ailleurs, de rentrer en Palestine, bah, ils se trouvaient beaucoup mieux là où ils étaient et donc refusaient d'une certaine manière de faire cette montée. Et c'est très intéressant parce que d'une certaine manière, cette question elle est reprise un peu pour refléter cette interrogation. Et si vous lisez attentivement ces textes, pourquoi, ben vous allez vous rendre compte qu'il n'y a jamais donné de réponse à cette question. Le peuple pose toujours la question pourquoi, et sur le plan narratif, il n'y a jamais ni Moïse ni Yahvé explique. C'est pourquoi, donc, du coup, c'est une question qui reste ouverte, qui est constamment posée et qui, du coup, reflète peut-être aussi ce débat qui, d'une certaine manière, est un débat que vous avez dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière. Ben, tout le monde peut aller en Israël, mais tout le monde n'a pas forcément envie. Et donc, ça, c'est quelque chose qui commence déjà là. Et ce qui est très intéressant, en fait, que cette question qui est posée reste sans réponse, et donc d'une certaine manière on peut dire c'est à chaque destinataire de ce texte de trouver sa propre réponse, de savoir s'il se met de côté de ceux qui se posent la question ou s'il monte tel que probablement c'est souhaité ou sous-entendu. Donc et puis maintenant je retrouve mes autres PowerPoint qui, voilà, je ne sais pas, j'ai dû faire une mauvaise... Bon, alors je vous montre juste encore mes Eldad et mes dates, mais je vous ai déjà tout dit sur Eldad en Europe. Je vous montre... Hop. Voilà, Eldad et mes dates, donc je vous ai dit, c'est aussi pour introduire le nombre 72. Et on va quand même maintenant aller au Caï et au jugement. Le reste, vous l'aurez sur le site, donc les autres feuilles. Il y a quelque chose de curieux. L'informatique reste mystérieuse. Donc, Moïse, donc, qui va poser en fait la question d'où est-ce qu'il va prendre cette viande pour le peuple, ou est-ce que Dieu va pouvoir, en effet, pourvoir tout cela est intéressant aussi. Là aussi, je cherche maintenant. Bon, c'est pas bien grave. Bon, c'est de nouveau parti ailleurs. Alors, je vous le rappelle simplement. Donc, Moïse dit, mais comment peut-on faire, même si on abattrait tout le grand petit bétail, on n'aura pas assez. Même si aller pêcher en plein désert, c'est un peu difficile, du poisson partout, ça ne suffira pas. Et Yahvé répond, mais est-ce que tu penses que mon bras ou ma main, c'est la même chose en hébreu, yad, que mon bras sera trop court? Et cela aussi est intéressant parce que si vous lisez le deuxième Ésaïe de nouveau, vous constatez que souvent on dit non, le bras du Seigneur n'est pas trop court. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient dit, ah, il est bien court, le bras du Seigneur. Donc c'est-à-dire que suite à la destruction de Jérusalem, l'exil, il y avait beaucoup de gens qui avaient douté quand même de la capacité de Yahvé de s'occuper de son peuple. Et donc là, du coup, c'est un peu la réponse à ça. Sans doute, il y avait aussi une sorte d'adage, bon, nos os sont desséchés et le bras de Yahvé est le bien court. Et puis, deuxième, Esaïe dit non, non, c'est pas le bras de Yahvé, c'est pas du tout trop court, vous allez voir ce qu'il va faire. Et donc, ce dialogue avec Moïse, en fait, va un peu dans ce sens-là. Alors, maintenant, Yahvé va annoncer, en fait, les cailles qui vont arriver, hein, les cailles qui vont arriver. Maintenant, le lien avec la question de la prophétie est fait par le thème du ruach. Ruach qui est utilisé maintenant ici, non pas dans le sens de l'esprit, mais dans le sens du vent. Hein, le vent qui fait venir les cailles et qui les abat dans le camp des Hébreux. Alors, les cailles sont bien connues en Égypte. C'est peut-être une petite réminiscence, même. Ben, vous voulez la viande de l'Égypte, hein, on va vous donner la viande de l'Égypte. Hein. Parce que les cailles, ben, vous avez là un poussin de caille qui sert dans l'écriture hiéroglyphique. Hein. Un poussin de caille, c'est la lettre W, comme le Vav, le OU, hein, pour le pluriel, etc. Et puis là, vous avez un autre relief. On a l'impression que des cailles qui sont tombés là, sont utilisés aussi pour des offrandes. Donc c'est en effet une nourriture appréciée et très connue, en effet, donc, en Égypte, parce que ces oiseaux sont assez faciles à attraper, sont un peu gras, hein, et donc ils volent la nuit, puis ils sont un peu fatigués, ils se laissent assez facilement capturer, comme c'est aussi présenté dans cette représentation égyptienne. Dans la Bible, les cailles ne sont pas trop fréquemment mentionnées et toujours en lien avec la manne. Donc ça fait toujours couple avec, évidemment, là aussi, l'idée qu'il y a une sorte de quantité immense qui s'abat sur le camp, donc entre 300 et 400 litres, d'autres disent 250, mais ça ne change pas grand-chose. Donc, puis on dit qu'ils ont deux coudées, donc comme ça. Puis... Mais enfin, donc, tout l'idée, c'est de montrer en fait, l'abondance, mais une abondance dont le peuple ne peut en effet profiter, puisqu'on dit qu'ils n'avaient même pas encore commencé à manger, qu'il y avait un coup de Yahvé qui en fait, les frappa. Ce coup n'est pas précisé, c'est le même terme qui est utilisé déjà en Genèse 12 lorsque Yahvé va frapper la maison de Pharaon et ensuite dans le récit des plaies. Donc c'est simplement pour dire que Yahvé peut bien donner, le bras de Yahvé n'est pas trop court, mais il laisse aussi libre cours à sa colère. Et donc on se termine avec disons, l'étiologie de ces Kivrot HaTaava, les tombeaux de la convoitise, qui est en effet le thème avec lequel le récit s'est ouvert, pour ensuite avoir l'itinéraire donc, qui les amène donc, à Hatzeroth, de Kivrot HaTaava, donc du tombeau de la convoitise. Ils arrivent à Hatzeroth. Il ne faut pas chercher ces lieux sur une carte. Ah ben, il y a des gens qui le font. Mais on voit très bien en fait que là, on construit une géographie imaginaire. On construit une géographie imaginaire. Donc, on passe des tombeaux de convoitise, donc qui introduit déjà le début de la fin de la première génération, hein, jusqu'à Hatzeroth. Hatzeroth, c'est n'importe où, parce que Hatzer, c'est simplement des villages ouverts, des villages sans fortification, hein, des habitations. Donc, d'où va en effet partir aussi le récit suivant. Donc, ce premier récit de rébellion se comprend donc à la fois donc, comme une critique de cette demande de confort de la part du peuple, qui peut aussi refléter un certain nombre de problèmes peut-être économiques à la fin de l'époque perse, tout en légitimant avec cette réécriture l'institution des anciens. Hein, probablement, il y a eu autour du temple, donc il y avait le temple, donc évidemment sous la direction de la classe sacerdotale, mais à côté, il y avait sans doute une institution des 70 anciens qui se comprenaient comme les successeurs de Moïse et qui se légitiment ici, qui se légitiment aussi dans d'autres textes. Et c'est un peu ce que le spécialiste russe Yoel Weinberg a appelé la « Bürger-Tempel-Gemeinde », c'est-à-dire le judaïsme naissant, en fait, à deux centres de pouvoir autour du temple et autour d'une administration laïque qui peut-être ici se reflète dans les 70 anciens. Et là-dedans encore, et voyez comment c'est intéressant dans le livre de Nombres, là-dedans c'est encore greffé cette histoire de la démocratisation de la prophétie. Mais la démocratisation de la prophétie, ce n'est pas le dernier mot. Parce que là, Moïse dit, tout le monde peut être prophète comme moi. C'est ce qu'on a quand on s'arrête au chapitre 11. Mais quand on lit le chapitre 12, là, ça va se passer mal pour les prophètes, représentés par Myriam, mais aussi pour les prêtres, représentés par Aaron. Mais pour cela, il faut attendre après les vacances, parce que le Collège de France a fermé ses portes pendant 2 semaines, et donc on se retrouve après 2 semaines, donc j'ai une séance en retard, mais on va s'arranger, pour parler en fait de Moïse comme étant le seul vrai médiateur, au-delà de tous les prophètes et au-delà de tous les prêtres. Bonnes vacances, et puis à bientôt.